de lire la parole de l'Éternel, nous prions. Toi qui as parlé face à face avec Moïse et qui fit crier et pleurer les prophètes, toi qui as fait jaillir les psaumes et murmurer la sagesse des proverbes, Dieu vivant qui a mis la louange dans la bouche de Marie et la confession du Christ dans celle de Pierre, toi qui as prononcé ta parole comme une parole humaine dans la vie de ton Fils, par ton Saint-Esprit, que dans ces paroles humaines se lève ta parole pour nous. Amen. Nous lisons dans le livre du prophète Habacuc, du verset 1, verset 12, du chapitre 1, verset 12, au chapitre 2, verset 4. Donc c'est dans la feuille imprimée. Alors, il s'agit d'un dialogue. Donc, du verset 1 à 12 au verset 1 à 17, c'est le prophète qui parle. Et à partir du chapitre 2, donc les quatre versets qui suivent, c'est Dieu qui parle. N'est-ce donc pas toi qui es depuis les prémices, Éternel, mon Dieu, mon sacré, tu ne meurs pas. Éternel, tu as mis l'agresseur pour juger, mon rocher, tu l'as affermi pour condamner. Mais tes yeux sont trop purs pour contempler le mal. Tu es incapable de fixer la souffrance. Pour quelle raison observes-tu les perfides? À quelle fin demeures-tu donc en silence quand le méchant engloutit plus juste que lui? Tu rends les humains tels les poissons de la mer, tels des bêtes rampantes sans direction. L'agresseur les fait tous monter à l'hameçon, il les tire avec son filet, les prend dans sa nasse, et puis le voici dans la joie et l'allégresse. Ensuite, il offre un sacrifice à son filet et il fait consumer de l'encens pour sa nasse, car par eux, sa portion est devenue grasse et son aliment est désormais abondant. Va-t-il maintenant pouvoir vider son filet pour encore tuer des peuples sans pitié? Je reste debout à ma station de guet, je tiens position dans mon retranchement pour voir ce que l'Éternel doit me déclarer et quelle réponse il donne à mon plaidoyer. Et l'Éternel me répond, et il me déclare, écris une vision, grave-la sur des tables, de sorte qu'on puisse la lire sans effort. Car la vision est pour un temps à venir, elle aspire à son terme, et elle ne ment pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra. Oui, elle viendra, elle ne tardera pas. Voici, l'âme du méchant est vaine et tordue, mais le juste, par sa fidélité, vivra. Parmi les trésors de la Bible hébraïque, le livre d'Habacuc est l'un des mieux cachés. Il ne fait pas partie du hit parade des livres prophétiques. Ce n'est ni le livre le plus cité, ni le plus commenté. D'habitude, il est sagement rangé, plus ou moins visible, dans l'ensemble qu'on appelle les 12 prophètes, et qu'on affuble souvent du titre bien trompeur des 12 petits prophètes. D'ailleurs, arrêtons-nous sur ce nom, Habacuc, Habacuc en hébreu. C'est un nom qui sonne aussi étrangement en hébreu qu'en français. Il n'est pas possible d'en préciser l'étymologie sur la base d'une racine hébraïque. L'opinion la plus répandue aujourd'hui est qu'il s'agit d'un prénom d'origine étrangère, possiblement emprunté à l'acadien, la langue des empires assyriens et babyloniens, les superpuissances de l'époque. Si c'est le cas, notre prophète est donc soit d'origine étrangère, soit il a hérité d'un prénom emprunté à la puissance culturelle dominante de son époque, comme l'on donnerait à son fils aujourd'hui un prénom tiré de la dernière série télé à la mode. En l'état, il nous est impossible de trancher ce point. D'ailleurs, de peu d'importance. Car le propos du livre d'Habacuc n'est pas tellement de nous parler d'Habacuc. Il s'agit là d'un livre biblique assez singulier. Il est court, il est ramassé, sans fioritures. Habacuc n'est pas un prophète comme les autres. Voyez-vous, être prophète pouvait être un métier assez facile à cette époque-là. Les prophètes et les voyants formaient une catégorie socio-professionnelle plutôt bien considérée, le plus souvent rattachée aux temples royaux et au centre du pouvoir politique. On ne s'en sortait pas trop mal si l'on se contentait de dire ce que l'on attendait de vous en faisant le job sans trop faire de vagues. La Bible nous offre bien des exemples de ces prophètes de métier qui adressaient au roi et au peuple, au nom du divin, des paroles flatteuses et rassurantes. Pas une parole de travers ne sortait de leur bouche, aucune dissonance ne venait perturber l'harmonie factice de leurs oracles, aucune parole désobligeante n'était émise à l'encontre des puissants ou de l'opinion dominante. Or, Habacuc n'est pas de cette trempe. Quelque chose semble le tourmenter, et il ne compte pas tourner autour du pot pour exprimer le fond de sa pensée. Évitant tout salamalek inutile, son livre démarre par cette adresse à Dieu. Jusqu'à quand, Seigneur ? J'ai appelé à l'aide et tu n'as pas entendu. J'ai crié vers toi, violence, et tu n'as pas secouru. Pourquoi me montres-tu l'iniquité ? Et comment peux-tu contempler l'injustice ? Face à moi, il n'y a que violence et dévastation. L'inimité et la discorde progressent. Aussi, la loi est-elle affaiblie et la justice est devenue passagère. Le méchant assiège le juste et le jugement sort déformé. Voilà un prophète original. Au lieu de rassurer, il inquiète. Au lieu de courtiser, il critique. Au lieu de complimenter, il blâme. Et pas n'importe qui. Son reproche s'adresse tout simplement au roi des rois, au juste suprême, à Dieu lui-même. Habacuc en avait décidément gros sur le cœur. Et comment lui donner tort ? Ce qu'il décrit demeure aussi valable pour son époque que pour la nôtre. Il suffit d'ouvrir les yeux pour contempler le spectacle déplorable et omniprésent de l'injustice et de la violence. La loi des hommes est mise au service des plus puissants. Quant à la loi de Dieu, elle est érigée en épouvantail, ou pire, en arme pointée contre notre prochain, celui-là même qu'elle nous exhorte à aimer comme nous-mêmes. La réponse de Dieu ne se fait pas attendre. Il a un plan. Il prépare quelque chose d'extraordinaire. Dieu va susciter les Babyloniens, dont les armées sont décrites par des traits terrifiants, pour venir semer la terreur et la désolation, là où les méchants se croyaient en sécurité. L'injuste sera percé d'une pluie de flèches, décochée d'une terre lointaine par une main puissante. La punition sera donc à la mesure du crime. Habacuc aurait pu se contenter de cette réponse et retourner vaquer sagement à ses occupations. Mais non. Vous l'aurez compris, Habacuc est du genre têtu. Car il perçoit bien le problème d'une telle réponse. Elle exprime sans embâge. Il dit « Pourtant, tu as les yeux trop purs pour voir le mal. Tu es incapable de fixer la souffrance. Pour quelle raison observes-tu les perfides ? À quelle fin demeures-tu donc en silence, quand le méchant gloutit plus juste que lui ?» Et plus loin, tu rends les humains tels les poissons de la mer, tels des bêtes rampantes sans direction. L'agresseur les fait tous monter à l'hameçon, il les tire avec son filet, les prend dans sa nasse. Et puis encore, toujours en référence à l'envahisseur babylonien, va-t-il maintenant pouvoir vider son filet pour encore tuer des peuples sans pitié ? On peut comprendre l'audace d'Habacuc. Il a une trop haute opinion de son Dieu pour accepter que la violence aveugle soit sa réponse à l'injustice. Comme Abraham, devisant avec Dieu sur le chemin de Sodome et s'écriant à l'annonce du châtiment à venir, « Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant ?» Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice ? Habacuc présente ici la même objection. En quoi un déchaînement de violence, frappant indistinctement le juste et le méchant, est-il une réponse satisfaisante au problème du mal ? Habacuc réclame une meilleure réponse, une réponse plus satisfaisante, plus radicale. Cette fois-ci, Dieu lui donne une réponse différente, qui commence ainsi. Écris une vision, grave-la sur des tables, de sorte qu'on puisse la lire sans effort. Car la vision est pour un temps à venir, elle aspire à son terme, et elle ne ment pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra. Oui, elle viendra, elle ne tardera pas. Voici, l'âme du méchant est vaine et tordue, mais le juste, par sa fidélité, vivra. Les derniers mots vous semblent sans doute familiers, dans une formule légèrement différente, « le juste par la foi vivra », à laquelle l'apôtre Paul et Luther à sa suite donneront une dimension extraordinaire. Que nous apprend cette réponse divine ? Plusieurs choses. Tout d'abord, il n'est plus question de glorifier l'envahisseur babylonien, exécuteur supposé de la punition divine. Plus loin, il est même condamné sans détour. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. La violence, aveugle de surcroît, n'est donc pas une réponse acceptable à l'injustice. Ensuite, Dieu évoque une vision. Mais quelle est donc cette vision ? On serait tenté de croire qu'elle est développée un peu plus loin, dans les 5 oracles de malheur qui font suite à notre texte et qui promettent pour l'envahisseur babylonien sanguinaire un châtiment exemplaire. Mais est-ce vraiment cela que le prophète est appelé à graver sur des tables ? Car graver quelque chose, c'est l'inscrire pour les temps à venir. C'est témoigner de ce qui ne change pas quand tout change. De ce qui demeure quand le présent instable laisse la place à un futur tout aussi incertain. Il paraîtrait incongru de mettre à l'épreuve du temps la promesse de chute d'un envahisseur quelconque. Du temps d'Habacuc comme du nôtre, les envahisseurs ne manquent pas. Peut-être que l'essentiel de la vision se trouve dans cette formule lapidaire, davantage digne d'être gravée pour toujours. L'âme du méchant est vaine et tordue, mais le juste, par sa fidélité, vivra. Habacuc se plaignait à juste titre de l'injustice des méchants et de la violence de l'envahisseur. Mais il oublie un point important. C'est que la violence visible trouve sa racine dans une âme pervertie, tordue, gonflée d'orgueil. En d'autres termes, pour agir contre le mal, il ne suffit pas de traiter ses symptômes. Il faut agir sur sa racine profonde, celle présente au cœur de l'être humain, portée vers la vanité et la violence. Mais que peut faire Habacuc pour rendre droite l'âme du méchant ? Rien, précisément. Habacuc ne peut agir sur l'âme d'autrui. Ceci est en dehors de son champ de compétences. Sur ce point, le prophète est appelé à reconnaître ses limites et à laisser Dieu agir. En revanche, il peut faire quelque chose d'autre, quelque chose qu'il est le seul à pouvoir faire et qui ne dépend que de lui. Il peut vivre par sa fidélité. La formule « le juste par sa fidélité vivra » rend peu justice au texte hébreu. La particule, qu'on traduit ici par « au moyen de », peut tout aussi bien signifier « dans », à l'intérieur de. Et le mot traduit ici par « fidélité » dérive de la racine « aman », celle-là même qui donnera naissance à notre « Amen ». Cette racine évoque en effet la fidélité, mais évoque surtout les sentiments de sécurité, de confiance et de constance. Elle renvoie vers la sérénité de celui qui sait que ses convictions sont pourvues d'une racine solide. Que nous apprend cette polysémie typiquement sémitique ? Eh bien, elle nous dit qu'il existe au moins 4 traductions, 4 lectures possibles pour cette formule. La première, le juste dans sa fidélité vivra, peut être lu comme un appel à demeurer fidèle aux élans de notre conscience, à nous accrocher à ce qui nous semble juste, à tenir bon lorsque la tentation du « à quoi bon ?» est la plus forte, lorsqu'on est tenté de céder, de rompre devant la justice. Rappelons-nous ici de la parole du Christ, confronté à l'angoisse d'une peine injuste. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Pourtant, non pas comme je veux, mais comme toi tu veux. » La deuxième possibilité, le juste dans sa confiance vivra, évoque la quiétude d'une âme qui ne s'inquiète plus, car car sa confiance est bâtie sur un roc éternel. La pluie tombe, les torrents viennent, les vents soufflent, mais cette confiance demeure et ne s'écroule pas. Et le Christ nous dit : Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain. Le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. La troisième possibilité : le juste, par sa confiance, vivra, nous rappelle que la confiance est un ingrédient nécessaire à la vie. Car que vaut la vie sans le ressort de l'espérance? Et que pouvons-nous accomplir sans la pulsion de la confiance? Est-ce à dire que seule la confiance suffit pour vivre? Non, bien sûr. Mais en ces temps où la satisfaction des besoins matériels est érigée en principe nécessaire et suffisant, il est toujours bon de se rappeler que ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu, en qui nous plaçons espérance et confiance. Enfin, la quatrième et dernière possibilité, le juste, par sa fidélité, vivra. Car en demeurant fidèle à la parole, en répondant à son appel, nous possédons déjà notre récompense, nous participons déjà à une vie nouvelle, à cette vie proclamée à Pâques et portée vers l'avenir dont témoignent les évangiles et les écrits des apôtres. Oui, nous sommes sous le régime de la vie éternelle, de cette vie que nous possédons parce que le Christ lui-même l'a méritée par sa fidélité. Et c'est par sa fidélité que Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom. Vivre dans la fidélité, par la fidélité, dans la confiance et par la confiance. Et si c'était donc cela que nous sommes appelés à inscrire en nos cœurs et en nos mémoires? Et si c'était cela la vision qui nous est promise? La vision d'une foi qui rend libre, d'une foi qui nous affranchit de nos entraves et de nos liens, d'une foi qui nous rend animés d'une vie nouvelle, d'une foi qui fait de nous tous, de manière inconditionnelle, des filles et des fils de Dieu. Et cette vision, cette promesse-là, est gravée pour toujours.